Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La quatrième année du règne de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode Antipas, tétrarque de la Galilée, Hérode Philippe, son frère, tétrarque de l'Iturée et de la province de Traconite, et Lysanias, tétrarque de l'Abilène. Mes frères, c'est par ces précisions que Saint Luc introduit la prédication de Saint Jean-Baptiste, préparant les Juifs à la venue de notre Seigneur. L'évangéliste nous montre par là que la venue du Sauveur sur terre est un fait historique incontestable. Mais cette introduction nous révèle en même temps le motif pour lequel notre Seigneur a voulu s'incarner en cette époque de l'histoire du peuple hébreu. Après la mort du roi Hérode, qui avait essayé de faire périr l'enfant Jésus et qui mourut pendant le séjour de la Sainte Famille en Égypte, l'empereur Auguste disloqua le royaume d'Israël pour mieux le tenir, y faisant disparaître tout ce qui restait de liberté et de nationalité. Il divisa le pays en 4 royaumes ou tétrarchies, attribués à 3 fils d'Hérode, Archélaus, Hérode Antipas, Hérode Philippe, et à Lysanias, étranger à cette famille. Aucun n'était juif. On voit combien Israël était humilié, coupé en 4, administré par des roitelets qui n'étaient même pas juifs, qui étaient à la solde de Rome, qui gouvernaient en tyran, qui étaient adonnés à l'immoralité. Et le cœur du pays, Jérusalem, là où se trouvait le temple, était gouverné par l'occupant romain, un païen, par Pilate. Mais il fallait qu'il n'y ait plus de descendants de David sur le trône d'Israël pour que vienne le fils de David qui devait régner sur toutes les nations, notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi se réalisait la prophétie du patriarche Jacob lorsqu'il avait fixé l'avenir pour la postérité de chacun de ses 12 fils, père des 12 tribus d'Israël. Le sceptre ne sera point ôté de Juda, ni le prince de sa postérité, jusqu'à ce que soit venu celui qui doit être envoyé, et c'est lui qui sera l'attente des nations. Il ne fallait plus qu'il y ait de roi sur le trône pour que le roi des rois puisse venir. Une autre raison pour laquelle notre Seigneur a voulu venir en cette époque de l'histoire d'Israël, c'est que les Juifs avaient déformé les prophéties. Ils les avaient orgueilleusement interprétées comme une promesse divine de domination matérielle de leur peuple sur le monde entier, alors que leur vocation était incomparablement plus élevée, préparer au monde entier la venue du Sauveur, être, comme le dit saint Paul, l'olivier franc sur lequel devaient être greffés les autres peuples pour constituer l'Église. Pour que les Juifs de bonne volonté reviennent au vrai sens des Écritures, il fallait que la situation de leur peuple soit devenue désespérée sur le plan temporel. Il n'y avait plus d'espoir de cette domination. Quand aucune solution n'est plus possible du côté des hommes, c'est une invitation à se tourner vers le ciel pour appeler le Sauveur. C'est comme cela souvent que la Providence agit. Application à aujourd'hui d'ailleurs, c'est ce que les Français devraient faire en ce moment. Mais il faudrait que l'épiscopat les y exhorte. Malheureusement, ce n'est pas son discours. Le cadre historique de la venue de notre Seigneur étant posé, voyons maintenant quelles leçons tirer de l'évangile de ce dimanche pour nous préparer à la fête de Noël toute proche. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il parcourut alors toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de pénitence pour la rémission des péchés. Le plus vif désir de l'Église en ce saint temps, c'est que Jésus-Christ naisse spirituellement dans nos cœurs, comme il est né corporellement à Bethléem. La première naissance il y a 2000 ans n'a eu pour but que la naissance dans nos âmes. Mais pour qu'il vienne dans nos cœurs, il faut nous y préparer. L'obstacle le plus important à la venue de notre Seigneur dans les âmes, c'est la suffisance fruit de l'orgueil. C'était le péché des pharisiens, qui se trouvaient bien tels qu'ils étaient. Ils ne pensaient pas avoir besoin d'un sauveur. Ils regardaient même avec mépris la foule des Juifs qui venaient recevoir le baptême de pénitence de Saint Jean-Baptiste. Et le saint les invective avec grande force, comme notre Seigneur fera plus tard d'ailleurs. « Race de vipères, qui vous a enseigné à fuir la colère qui va venir ? Faites donc de dignes fruits de pénitence, et ne dites pas en vous-même, nous avons pour père Abraham, donc nous sommes saints. » Cette suffisance aujourd'hui, c'est le péché originel du monde moderne, né en 1789. Grisé par ces progrès techniques, le salut spirituel que notre Seigneur lui propose par l'Église ne l'intéresse pas. L'homme moderne veut arriver au bonheur par lui-même, sans Dieu. Et pour lui, le bonheur, c'est ce qui satisfait son orgueil, son désir de richesse, sa sensualité. Bien sûr, ce n'est pas notre pensée puisque nous sommes ici. Mais cette suffisance, ce contentement de soi-même, est-ce seulement le péché des autres ? Peut-être tombe-t-on encore dans le péché mortel sans prendre vraiment les moyens énergiques qui nous en délivreraient. Et si par la grâce de Dieu, ce sont habituellement des péchés véniels que nous avons à accuser en confession, est-ce que nous n'avons vraiment pas de sérieux progrès à faire encore ? Examinons-nous sur notre vie de prière. N'y a-t-il vraiment rien à améliorer ? Et nos confessions ont-elles une bonne régularité ? Essayons-nous d'aller à la messe dans la semaine, du moins si nous n'habitons pas trop loin, d'aller au premier vendredi et samedi du mois ? Est-ce que nous avons toujours une lecture religieuse en cours ? Et puis, est-ce que vraiment nous n'avons plus aucun défaut ? Si ce nouveau Noël se borne pour nous à chanter ces beaux cantiques traditionnels, à regarder avec émotion le spectacle de la crèche, à voir revenir une belle réunion familiale, toutes choses qui vont nous réjouir à juste titre, et qui sont bonnes, bien sûr. Mais s'il n'y a que cela, nous serons passés à côté de la grâce de Noël. La grâce de Noël, c'est celle d'une venue spéciale de notre Seigneur dans notre âme, à l'occasion de la communion de Noël, pour nous faire grandir dans la vie chrétienne. Il pourrait alors se produire le paradoxe que quelqu'un qui tombe encore dans le péché mortel, mais qui demande sincèrement à notre Seigneur de venir à son secours, reçoive à Noël des grâces qui l'en délivreront, et que quelqu'un qui pourtant vit habituellement en état de grâce, mais n'est pas très fervent, ne reçoive aucun fruit spécial à Noël et continue à vivre dans la médiocrité parce qu'au fond, il est satisfait de lui-même, ne regrette pas sa tiédeur et ne demande pas à notre Seigneur de venir le guérir. Si l'obstacle à la venue de notre Seigneur dans notre âme est la suffisance, quelle est donc la vertu qui va nous préparer à le recevoir à Noël ? C'est la pénitence. Puisque notre Seigneur est venu sur terre essentiellement pour détruire le péché, on peut dire, bon attention, hein, d'une certaine manière, on peut dire que ce n'est pas le péché qui l'empêche de venir dans une âme. Le péché l'attire, lui qui est le divin médecin, mais à condition que l'on veuille en sortir. Péché mortel ou péché de tiédeur. La vertu de pénitence qui attire notre Seigneur dans une âme est la vertu qui nous fait regretter nos péchés et nos imperfections, nous donne le désir de les réparer et nous fait supplier notre Seigneur de nous y aider. C'est la disposition qui animait les Juifs de bonne volonté allant à Saint Jean-Baptiste pour recevoir le baptême de pénitence qu'il administrait dans le Jourdain, et c'est ce que les pharisiens ne voulaient pas faire. Bien sûr, depuis que notre Seigneur est venu sur terre et qu'il a institué son Église, la vertu de pénitence ne peut obtenir son effet sans le sacrement de pénitence, la confession, ou au moins le désir ferme de se confesser dès que l'on trouvera un prêtre. C'est la confession, en effet, qui fait couler sur notre âme le sang purifiant et fortifiant de notre Seigneur, qui détruit le péché. Mais souvenons-nous que l'âme de la confession, c'est la contrition, qui est une douleur de la volonté, avec le ferme propos de travailler à s'améliorer. Pour être concret, réfléchissons dans les heures qui viennent à un défaut qu'il nous faut encore combattre, celui qui revient le plus souvent dans nos confessions, par exemple. Regrettons-le, demandons de toutes nos forces à notre Seigneur, dans la communion de Noël, de nous aider à le déraciner. Soignons vraiment cette communion de Noël. Elle est le couronnement de tout ce temps de l'Avent. Approchons de Jésus hostie avec un grand désir d'être guéri et d'être transformé en lui. Alors nous aurons en nous la vraie joie de Noël. Pour terminer, donnons les derniers conseils pratiques indiqués par le grand catéchisme de Saint Pidis dans son instruction sur les fêtes. Il donne 5 points pour bien se préparer à fêter Noël. Premièrement, méditer avec une vive foi et un ardent amour le grand bienfait de l'incarnation du Fils de Dieu. Deuxièmement, reconnaître notre misère et le grand besoin que nous avons de Jésus-Christ. Troisièmement, le prier instamment de venir naître et de croître spirituellement en nous par sa grâce. Quatrièmement, lui préparer la voie par nos œuvres de pénitence et spécialement par la fréquentation des sacrements. Et cinquièmement, enfin, pensez souvent à sa dernière et terrible venue du jugement dernier et en vue de cet avènement, conformer notre vie à sa très sainte vie pour pouvoir, avec lui, participer à sa gloire. Demandons cela au cours de cette messe par la médiation de celle qui a fait venir le Sauveur sur cette terre il y a 2000 ans et nous passerons un très bon Noël. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.